fondons ensemble quelque chose de supranational, dans une entité supranationale. Et ainsi, tout sera très simple et très pratique.
Trait d'union.
Interrogation en profondeur sur la vocation et la destinée de l'Europe.
François Hollande s'est aussi inquiété à Strasbourg de la méfiance croissante des peuples vis-à-vis de l'Europe.
Tant qu'il y aura la crise, il y aura une défiance de l'Europe, même si ce n'est pas l'Europe qui fabrique la crise.
Trait d'union, le magazine hebdomadaire de l'Europe.
Parler ou définir l'avenir d'une nation comme la nôtre, sans situer cet avenir dans le cadre européen, on ne doit pas accepter que cette question soit éludée.
Madame Rosière, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir dans nos studios. Faut-il rappeler que vous êtes donc la députée européenne de notre région et des régions adjacentes, si je puis dire.
C'est ça.
Et vous êtes venue nous voir pour nous présenter, cette fois-ci, au Parlement européen, une série de métiers qui sont absolument complémentaires et nécessaires.
Oui, au Parlement européen, il y a 751 députés européens, mais pour que nous puissions jouer notre rôle, c'est toute une machinerie, beaucoup de métiers qui font que l'institution peut fonctionner, que le débat peut avoir lieu, et puis que, en tant que députés, nous sommes bien accueillis et nous pouvons être sereins dans l'exercice de nos fonctions.
Au-delà de cela, bien évidemment, certains métiers deviennent absolument indispensables, ne serait-ce que pour vos déplacements, et en l'occurrence donc les chauffeurs.
Oui, j'allais dire une armada, c'est un peu excessif, mais un certain nombre de chauffeurs sont là pour assurer les transports des députés. 751 députés, donc beaucoup de trajets, ne serait-ce qu'à l'arrivée et au départ des députés. Lorsque nous arrivons, que ce soit à Bruxelles ou à Strasbourg, effectivement, les transports sont assurés par ces chauffeurs-là, depuis la gare, depuis l'aéroport. Alors je vous rassure, hein, ce sont des transports, dans ces cas-là, des transports collectifs. Hein, nous sommes dans nos minibus qui viennent nous chercher pour nous amener au Parlement. À l'inverse, quand nous repartons, avec de temps en temps des emplois du temps un petit peu serrés, et je dois dire, une grande efficacité et une bonne connaissance des itinéraires bis dans les villes pour faire en sorte que nous arrivions à attraper notre avion ou notre train dans les temps. Et puis, toujours une forme de convivialité, parce que voilà, ce sont des personnes qui ont un réel sens du service, comme je vous le disais, parfois dans des timings assez serrés. Et puis, ils sont là donc pour assurer nos déplacements du Parlement européen vers un autre lieu ou d'un lieu où nous nous trouvons vers le Parlement européen. Ce sont vraiment les déplacements professionnels des députés. Également, ils nous transportent lorsque nous intervenons dans des événements à l'extérieur du Parlement. Et c'est vrai que le transport en voiture est parfois bien utile, en particulier à Bruxelles, où, même si c'est une très belle ville que j'aime beaucoup, le climat est très souvent pluvieux.
Oui, et donc je pense qu'également, ils ont besoin, et vous avez besoin d'une certaine, non pas complicité, c'est pas ce que je voulais dire, mais tout simplement peut-être la difficulté de la langue, parce que parfois transportent-ils des députés qui ne sont pas de leur pays et de leur langue.
Oui, alors moi j'ai de la chance parce qu'ils sont francophones, donc nous pouvons largement discuter. C'est vrai que c'est un métier qui demande beaucoup d'attention, de sens du service et de l'écoute. Ils arrivent à communiquer en anglais sans difficulté avec les parlementaires. Ce sont parfois certains parlementaires qui ne parlent pas forcément d'autres langues que leur langue natale. Et là, j'imagine qu'effectivement, la communication doit être plus compliquée. Mais je pense que ce sont des personnes qui sont rompues à ça. Et donc, avec aussi un vrai sens de l'efficacité, j'allais dire de la débrouille, pour faire en sorte qu'à la fin, tout se passe toujours bien.
Grâce à votre collaboration, on a pu donc interviewer M. Rudy Van Hassel du service chauffeur du Parlement européen. Monsieur Van Hassel, bonjour.
Oui, bonjour.
Monsieur Van Hassel, vous êtes donc chauffeur au Parlement européen. Alors, il est vrai qu'on voit parfois à la télévision de longs défilés de limousines se succédant les unes aux autres. Et pouvez-vous nous expliquer un peu ce qu'est votre rôle au sein du Parlement européen ?
Premièrement, donc, on conduit les députés européens partout un petit peu aux trois institutions, donc aussi bien à Bruxelles, Luxembourg qu'à Strasbourg. Et entre autres, on fait des délégations aussi, quand il y a donc des invités au Parlement, on s'occupe de ces délégations-là. Et puis encore aussi les directeurs généraux que l'on doit donc véhiculer aussi bien à Luxembourg, à Strasbourg et à Bruxelles.
En dehors de votre rôle personnel, M. Van Hassel, combien êtes-vous au service chauffeur, soit être astronomique, tel qu'on peut l'imaginer ici tout au moins?
Oui, naturellement. Je ne sais pas faire ça tout seul, ça c'est un petit peu compliqué. Mais bon, au Parlement européen, nous avons à peu près une petite vingtaine de chauffeurs donc, qui s'occupent de ça, plus encore des sociétés externes qui nous aident naturellement aussi bien à Strasbourg qu'à Bruxelles.
Mais justement, pour arriver à ce niveau, être un chauffeur qualifié comme vous l'êtes, vous avez suivi une formation particulière, des études spécifiques, justement, par rapport à cette activité au sein du Parlement, ou bien ça se fait sur concours? Comment avez-vous été recruté, si je peux me permettre?
Par concours, premièrement, donc vous devez passer plusieurs examens, aussi bien écrits, oraux. Et puis, on vous met donc sur une liste d'attente et on vous recrute alors petit à petit, suivant la demande.
Mais ça doit être, je pense, pour l'organisation, la coordination de votre activité, ça doit être, on pourrait dire, presque ingérable, et pourtant c'est fort bien géré. Donc il y a une centralisation des demandes de la part des députés qui se fait bien longtemps à l'avance, ou ça peut être pratiquement dans l'heure qui suit ou les heures qui suivent? Il y a une programmation qui vous est donnée suffisamment à l'avance pour que vous puissiez vous préparer à cela?
Non, pas toujours. Donc on essaye un maximum d'avoir les commandes, je vais dire, des députés à l'avance, mais ce n'est pas toujours le cas, donc parfois en dernière minute, ils viennent au comptoir des chauffeurs et ils demandent un véhicule pour aller à tel ou tel endroit. Donc tout ça se fait bien souvent en dernière minute.
Oui, il y a donc des heures de pointe et puis des heures un peu plus creuses, dirons-nous.
Oui. Donc il y a des moments quand même un peu plus calmes. Bon, les heures de pointe, c'est bien souvent le matin, donc de 7h30 vers 9h. Et puis le midi encore aussi, parce que bon, il y a plusieurs qui sortent pour une raison ou pour une autre. Et puis le soir, vraiment pour le retour, ça commence bien souvent vers 16-17h et ça se termine parfois jusqu'à minuit. Donc ça dépend un petit peu les activités qu'il y a au Parlement.
Alors je vais vous poser une question béotienne, parce que j'ai été dans ma jeunesse, on va dire, chauffeur, mais à l'armée. Et la difficulté majeure était non pas de conduire, mais de patienter en attendant justement que les personnes que nous avions conduites acceptent de retourner. Est-ce que vous avez le même phénomène que ce que j'avais, à devoir attendre justement le retour de la personne que vous avez accompagnée, ou bien est-ce que vous retournez directement en attendant qu'on vous rappelle?
Non, tout ça dépend un petit peu naturellement avec qui on conduit. Il y a des chauffeurs qui sont attitrés donc à des personnes bien précises. Et bon, bien souvent, on doit attendre qu'ils ont fini leur réunion pour pouvoir rentrer avec cette personne-là. Donc parfois, ce sont des heures et des heures d'attente dans le véhicule. Et ce sont parfois des très très longues journées.
Mais y a-t-il des trajets qui sont autorisés par le Parlement et d'autres qui seront un peu optionnels, dirons-nous?
Oui, il y a un petit peu de tout là-dedans. Donc oui, bien souvent, donc ce sont des députés qui viennent à l'aéroport et on les conduit à leurs appartements ou à leurs hôtels, et ainsi qu'au Parlement. Donc ce sont des trajets un petit peu variés. On ne sait jamais à l'avance, naturellement, quelle course on va avoir et où est-ce qu'on devra aller avec ces personnes-là.
Compte tenu de la diversité des langues qui sont parlées par les personnes que vous transportez, vous devez bien évidemment, je suppose, avoir quand même certaines connaissances un peu dans toutes les langues depuis le début de votre activité au sein du Parlement.
Oui, bien sûr, on essaye toujours d'avoir une notion des trois langues donc officielles du Parlement, que ce soit le français, l'allemand ou l'anglais. Et bon, c'est vrai que tous les chauffeurs ne parlent pas ces trois langues-là. Et bon, si on arrive à véhiculer une personne qui ne parle pas l'anglais ou une autre langue, donc on essaye de contacter un petit peu par signe, des choses comme ça. Donc, mais en général, il n'y a pas de problème, on essaye de contenter les députés.
Est-ce que vous avez l'obligation ou un intérêt majeur à apprendre des langues que vous ne connaîtriez pas, justement, même si ce sont que quelques mots qui vous permettent de communiquer avec les gens que vous véhiculez? Oui.
Non, ça, nous ne sommes pas obligés. Disons que quand on fait les interviews, on essaye d'avoir quand même minimum deux langues, si pas trois. et donc d'au moins deux langues officielles du Parlement. Donc, mais en général, non, on ne fait pas des formations de langue. Il est toujours possible d'en faire, ça oui, mais ce n'est pas une obligation.
Justement, vous qui êtes donc sur nos documentations stipulées comme chauffeur, vous n'êtes que chauffeur ou bien est-ce que vous organisez également, vous avez une partie administrative, parce que je suppose que vous devez rendre des comptes sur les trajets que vous avez effectués, soit être quand même pas mal de paperasse, non ?
Oui, 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 tout à fait. Donc, on doit toujours justifier, naturellement, quand nous partons en mission à l'étranger ou même en Belgique également. Donc, il y a toute une série de documents à fournir et des preuves qu'on a bien effectué cette mission.
Et est-ce que vous avez, en liaison avec votre métier, parce que quand même on pense toujours, malheureusement, on va dire, au risque d'attentat, une formation spécifique pour transporter des personnes en toute sécurité ?
On essaye naturellement qu'ils soient en sécurité totale, mais dont le risque zéro n'existe pas, bien sûr, donc on fait bien attention, mais nous suivons également des formations pour ça, oui, mais je trouve pas assez souvent.
Que vous demande-t-on comme vraiment qualité première ? Est-ce qu'on vous demande surtout d'être disponible, polyglotte, ou la ponctualité et la rigueur, ce sont les principales qualités qui vous sont requises pour pouvoir exercer ce métier ?
Oui, non, il y a un petit peu de tout ça, naturellement, qu'on demande à un chauffeur et surtout la discrétion aussi, d'ailleurs. Ça, c'est très important pour nous aussi.
Alors, en parlant de discrétion, on ne va pas être indiscret, rassurez-vous, mais pourriez-vous nous indiquer, si vous le voulez bien, évidemment, quel serait votre meilleur souvenir ?
Ça s'est passé au début de l'année 2000, donc au traité de Nice. On a passé quelques jours là-bas, au traité de Nice, et c'était pas mal du tout. Même si on avait beaucoup de travail, c'était une mission qui m'a beaucoup plu à ce moment-là.
Eh bien, c'est sur ce ton un peu, on va dire, prime sautier, on va dire hors métier, que nous allons nous quitter, M. Van Hassel, en vous remerciant surtout de nous avoir vraiment expliqué ce qu'était le métier de chauffeur au Parlement européen. Je vous remercie et à très bientôt peut-être.
Fondons ensemble quelque chose de supranational, dans une entité supranationale. Et ainsi, tout sera très simple et très pratique.
Trait d'union.
Interrogation en profondeur sur la vocation et la destinée de l'Europe.
François Hollande s'est aussi inquiété à Strasbourg de la méfiance croissante des peuples vis-à-vis de l'Europe.
Tant qu'il y aura la crise, il y aura une défiance de l'Europe, même si ce n'est pas l'Europe qui fabrique la crise.
Trait d'union, le magazine hebdomadaire de l'Europe.
Parler ou définir l'avenir d'une nation comme la nôtre, sans situer cet avenir dans le cadre européen, on ne doit pas accepter que cette question soit éludée.